Chapitre 5. Une seule personne dans la maison de la marquise avait la confiance de Constantia. C'était Andrea, sa nourrice. « Vrai Dieu, ma fille !» lui disait un matin celle-ci. « Est-il possible que tu veuilles faire ce chagrin à ta mère, que tu rejettes le sort brillant qui s'offre à toi, et tout cela pour t'être amouraché sans rime ni raison ? Je t'avais cependant prévenu, mais les conseils sont comme les mots. On n'apprécie ce qu'ils valent que quand on ne peut plus en profiter. Combien de fois ne t'ai-je pas répété, Vargas est un excellent garçon, je ne dis pas le contraire, mais te marier avec lui, il n'y faut pas penser. » « Qui te parle de se marier ? » répondit sèchement Constantia. « Qui parle de se marier ? Voyez la belle question. Mais toutes les filles, à moins qu'elles ne veuillent se faire nonnes. » « Tu te trompes, nourrice, il y en a qui ne pensent ni à l'une ni à l'autre chose. »« Eh bien alors, laisse-la ce Bruno, il en aura bientôt pris son parti. »« Peux-tu bien dire semblable chose, nourrice ? Es-tu donc mon ennemi comme les autres ?»« Jésus, sois donc raisonnable, mon enfant. Comment veux-tu que je ne m'afflige pas d'une chose déraisonnable et qui ne peut aboutir à rien ?» Vargas n'a pas de fortune, et si tu refuses d'obéir à ta tante, il te faudra renoncer à son héritage. Voyez le beau malheur ! Et que me font à moi ma tante et son héritage ? Un héritage sous condition, elle peut bien le garder. À quoi me servirait cet argent ? Adorer mon malheur ! Non, non, nourrice, je veux être heureuse à ma fantaisie, et je le serai, sans héritage, sans grandeur et sans titre. À celles qui les recherchent et les apprécient, je laisse tous ces hochets. Pour moi, il n'existe qu'un seul bonheur. Si je l'obtiens, dussé-je n'y parvenir que dans ma vieillesse, je croirai avoir bien employé ma jeunesse à l'atteindre. Persuade-toi bien cela, nourrice, et ne te ligue pas avec les autres pour me tourmenter. J'aime Vargas et je n'en aimerai jamais d'autres. Je n'en épouserai jamais d'autres, dussé-je être réduite à mendier mon pain de porte en porte. « La vie est bien longue, mon enfant, » répliqua la nourrice en soupirant. « Et c'est bien pour cela que je ne veux pas m'enchaîner par un mariage qui me répugne. » Le matin de ce même jour, la marquise disait à son confident Don Sylvestre, « Jésus, c'est aujourd'hui qu'arrive le marquis de Valdemar et je ne sais où donner de la tête. Ma sœur tient tant à ce mariage et est loin de se douter de ce qui se passe ici. » Quel enfant, mon Dieu ! Jamais je n'en ai vu de plus entêté et de plus maussade. Que dira le marquis quand il sera mis en contact avec ce hérisson ? Il reprendra la route de Madrid et il aura raison. Mais, madame, répondit tranquillement Don Sylvestre, pourquoi ne pas avoir écrit à temps à votre sœur pour empêcher ce voyage inutile ? Et qui aurait pu prévoir, à moins d'être un prophète comme vous, l'entêtement de cette pécore ? Je n'avais considéré son refus que comme un caprice qui n'aurait pas de suite. Pouvais-je croire qu'une fille de 19 ans refuserait d'épouser un homme accompli de tout point, jeune, riche et grand d'Espagne, et serait assez sotte pour perdre de plein gré l'opulent héritage de ma sœur ? Marquise, vous jugez les autres d'après vous. La saine raison ne peut comprendre les sottises de la déraison. « D'accord, mais la saine raison devrait savoir que tout le monde ne jouit pas de cette saine raison. »« Enfin, n'y aurait-il pas quelque moyen de ramener cette folle à la raison ?»« Je n'en vois aucun, marquise, et s'il y en avait un, je ne vous conseillerais pas de l'employer. »« Pourquoi ?»« Parce que l'autorité maternelle a des limites, parce que vous assumeriez sur vous une immense responsabilité. » « Bah, de grands mots et pas autre chose. Quand l'âge des caprices est passé, tous les bonheurs se ressemblent. » « Si l'on pensait ainsi à 19 ans, marquise, il n'y aurait plus de jeunesse. » « Vous baptisez pompeusement chaque chose, Don Sylvestre. La folie, du nom de jeunesse, les jeunes filles, du nom de perles. À vous entendre, on croirait que vous passez votre temps à lire des vers ou des romans. » Vous qui, de votre vie, n'avez ouvert un livre, ce dont je suis loin de vous blâmer. Moi, j'ai coutume de donner à chaque chose son nom propre, et je vous le dis franchement, il ne pouvait arriver qu'à moi d'avoir des filles telles que les miennes. Que faire maintenant ? Il ne me reste plus qu'à écrire à ma sœur pour lui raconter ce qui se passe et demander ses conseils. Ne vous pressez pas, marquise. Qui sait si le marquis de Valdemar, que l'on dit un homme charmant, n'aura pas plus d'influence sur votre fille que la volonté qui ordonne et les conseils qui blessent. Pour la première fois de votre vie, vous avez raison, Don Sylvestre. Il est possible qu'auprès de cet enfant rebelle, un beau cavalier ait plus d'influence qu'une mère. Et si l'affaire réussit, je vous promets de faire dire une messe en l'honneur de Sainte Rita. Le marquis de Valdemar vint faire visite dans la journée, et la maîtresse de la maison se montra d'autant plus prévenante envers lui que, du premier abord, il avait fait sa conquête. Mais la marquise eut beau envoyer à sa fille message sur message, Constance prétexta une forte migraine et refusa de paraître. Pour dédommager le marquis, Allegria fit usage de tout l'arsenal de ses grâces et se montra pour lui des plus aimables et des plus empressées. Elle fit passer sous ses yeux toute la société de Séville et l'amusa beaucoup par la peinture la plus comique et la plus spirituelle des personnages qui la composent. Clémence, silencieusement assise auprès d'une fenêtre, continuait à broder un mouchoir destiné à sa tante. À peine l'attention du marquis s'arrêta-t-elle un instant sur la jeune fille. « Que te semble du madrilène ?» lui demanda Allegria quand le marquis eut pris congé. « Je le trouve fort bien, » répondit simplement Clémence. « Pas moi, » repartit dédaigneusement Allegria. « Il est raide, compassé, prétentieux comme un maître de danse, guindé, pincé, c'est à peine s'il daigne sourire. La seule chose par laquelle il brille, c'est par l'éclat du vernis de ses souliers. Comment ? S'écria Clémence étonnée. « Tu juges les hommes d'après leurs chaussures ?